L'encyclopédie, article de Jaucourt, sommeil. Sommeil, état d'inaction ou de détention des organes, des sens extérieurs et des mouvements volontaires. Cet état est nécessaire à l'homme pour soutenir, réparer et remonter sa machine. Du Dieu qui nous créa la clémence infinie, pour adoucir les maux de cette courte vie, a placé parmi nous deux êtres bienfaisants, de la terre à jamais aimables habitants, soutien dans les travaux, trésor dans l'indigence, l'un est le doux sommeil et l'autre l'espérance. L'un, quand l'homme accablé, sent de son faible corps les organes vaincus, sans force et sans ressort, vient par un calme heureux secourir la nature, lui porter l'oubli des peines qu'elle endure. Henriade, chant 7. Tels sont les effets salutaires du sommeil, mais la cause qui le fait naître et disparaître au bout d'un certain nombre d'heures est si difficile à trouver qu'il faut s'en tenir à de simples conjectures entre lesquelles voici peut-être les plus vraisemblables. Pour que notre corps puisse se mouvoir avec facilité, il faut qu'il y ait du suc nerveux qui puisse être envoyé dans les nerfs et qu'il n'y ait pas d'obstacle qui l'arrête dans son cours. Si ces deux conditions viennent à manquer, on se trouve dans l'inaction. Quand nous agissons, le suc nerveux se dissipe peu à peu, en sorte qu'après de longs travaux, il ne se trouve plus d'esprit en assez grande quantité pour mouvoir notre corps. Mais afin que les liqueurs coulent dans nos organes avec rapidité, les fibres de nos vaisseaux doivent avoir une certaine tension. Si elles n'étaient pas tendues, elles ne sauraient pousser les fluides. Or, par le travail, les fibres perdent leur tension parce que le suc qui les remplissait et qui les tendait en les remplissant s'évapore continuellement. Ces fibres n'étant plus tendues tombent les unes sur les autres. Et de là, il suit que celles du cerveau, qui sont les plus molles, doivent plus facilement s'affaisser. Quand la masse du cerveau sera ainsi affaissée, le suc nerveux ne passera plus dans les nerfs comme auparavant, en sorte qu'alors succédera la langueur qui nous obligera de nous reposer. C'est ce qu'on peut prouver par le sommeil qui arrive quand on lit une des carotides ou quand on a perdu une quantité extraordinaire de sang ou quand les sucs qui remplissent les vaisseaux ont été épuisés et dans les maladies. Les nerfs éprouvent encore une autre compression quand nous veillons longtemps. La transpiration enlève continuellement la partie la plus fluide du sang. Ce qu'il y a de plus grossier reste dans les vaisseaux. De plus, par le travail, et même par l'action seule du cœur, le sang s'accumule dans les extrémités des artères qui se trouvent au cerveau. Ces artères doivent donc s'engorger, et leur engorgement doit comprimer l'origine des nerfs. Cette compression produit nécessairement un engourdissement dans tout le corps, puisqu'il est obstacle au cours du suc nerveux. On voit l'effet de cette compression dans les plénitudes de sang, dans l'usage immodéré des esprits fermentés, qui par leur raréfaction cause une grande pression dans le cerveau et par conséquent jette dans le sommeil. Mais on a vu un effet bien plus sensible de cette compression. Une femme dont le crâne était ouvert s'endormait dès qu'on lui pressait le cerveau et tombait pour ainsi dire en apoplexie par une compression plus forte. Nous pouvons donc penser que la compression est une des causes du sommeil. Lorsque nous avons été fatigués par le travail ou que nous avons veillé longtemps, le suc nerveux se trouve dissipé, ses vaisseaux gonflés dans la tête compriment l'origine des nerfs, mais en certains cas, le cerveau ayant perdu sa tension, s'affaisse et forme la compression. Or, tout cela doit produire dans les nerfs le même effet qu'une ligature. Le sentiment doit donc s'émouvoir, les mouvements volontaires doivent devenir difficiles et cesser entièrement. Et comme le col n'est soutenu que par les muscles extenseurs, et qu'il faut une action pour le tenir droit. La tête doit se pencher par son poids, parce que ses muscles n'agissent plus. Les yeux doivent se fermer, car pour qu'ils soient ouverts, il faut que le muscle qui lève la paupière soit un raccourci. Et durant le sommeil, il ne reçoit pas assez de suc nerveux pour cela. En revanche, il se lâche et abandonne la paupière supérieure à elle-même. Enfin, tous les membres sont lâches, puisque les muscles qui les meuvent ne reçoivent plus, comme auparavant, la liqueur qui les anime. De tout cela, il suit aussi que les affections de l'esprit, qui dépendent de l'activité des sens, doivent cesser lorsque nous dormons. Tandis que l'action cesse dans les muscles qui sont sujets à la volonté, le mouvement devient plus sensible dans le cœur et dans les organes de la respiration. Les muscles étant lâches dans les extrémités, ils ne poussent plus le sang. Leurs fibres affaissées n'aident ni les artères ni les veines. Il arrive donc que le cœur trouve plus de résistance. Or, comme le cœur ne saurait trouver de la résistance, que son action ne devienne plus grande, ces obstacles qui se trouvent dans les extrémités font que la circulation est plus forte dans les viscères, car le sang ne pouvant pas continuer sa route vers les extrémités, se jette en plus grande quantité dans les vaisseaux latéraux, c'est-à-dire dans les vaisseaux qui se répandent dans l'abdomen. Ce système donne au moins la cause de plusieurs phénomènes très curieux. Premièrement, la transpiration augmente dans le sommeil et les autres sécrétions diminuent. Outre que la chaleur du lit, en raréfiant la peau, peut ouvrir les tuyaux sécrétaires, il faut observer que le sang qui se jette en plus grande quantité dans les viscères de l'abdomen gonfle les artères. Ce gonflement comprime les tuyaux sécrétoires, qui alors ne peuvent plus recevoir la liqueur qu'ils leur sont accoutumés de filtrer. Mais les tuyaux sécrétoires de la peau ne sont pas comprimés d'eux-mêmes, parce qu'ils n'appuient extérieurement que contre l'air. D'ailleurs, ils ne sont pour la plupart que les extrémités des artères ou des pores. Ainsi, rien ne serait empêché que les liqueurs ne continuent leur chemin par les ouvertures. Ajoutez que la chaleur est plus grande quand nous dormons et que nous sommes bien couverts. Or, cette chaleur produit la raréfaction, et la raréfaction est suivie d'une transpiration plus abondante. Deuxièmement, les parties se nourrissent mieux durant le sommeil, car d'abord, il se dissipe moins de substances grossières, puisque les muscles sont dans l'inaction. Et de plus, ce repos qui règne dans le corps fait que les parties qui nourrissent peuvent se mieux appliquer aux parties solides, car elles ne trouvent pas d'obstacle dans le mouvement que les muscles, quand ils agissent, impriment à ces parties que doit réparer le suc nourricier. Tandis que les obstacles diminuent la force qui fait l'application du suc nourricier aux parties solides augmentent, car c'est l'action du cœur. Et par cette action plus forte du cœur, le chyle se change en lymphe et en sang plus facilement. Enfin, les vésicules qui renfermaient la graisse et qui étaient vidées par l'action des muscles se remplissent peu à peu de nouvelle huile. Et c'est même le principal effet du sommeil. Tout en un mot se répare à cause de ce mouvement doux et uniforme que nous éprouvons en dormant. Au contraire, tout se détruit et se vide dans notre corps par l'éveil. Troisièmement, durant le sommeil, le suc nerveux se filtre peu à peu et coule dans les réservoirs. Et enfin, après 7 à 8 heures de repos, il s'en trouve une assez grande quantité pour remonter notre machine. Quatrièmement, ce qui se perd par la transpiration qui arrive durant le sommeil, c'est surtout la partie aqueuse des aliments et de notre sang. Le mouvement modéré qui règne alors dans notre corps ne peut détacher que peu de parties huileuses et grossières. Au contraire, il attache davantage ces sortes de parties, comme nous l'avons dit. Mais dans le temps que nous veillons, l'action des muscles fait évaporer les matières plus épaisses qui sont dans le tissu des parties solides. De là, il suit que quand nous dormons, nous n'avons pas besoin de manger, comme quand nous veillons. Cela paraîtra encore plus clairement si l'on fait réflexion que le suc nerveux destiné aux muscles ne se perd pas, puisqu'il n'est pas envoyé et que tout se remplit et se répare. On peut donc être longtemps sans prendre des aliments, pourvu qu'on dorme. Si l'on veille et que l'on agisse, il faudra souvent manger. On peut ajouter à tout cela que le sentiment étant émoussé durant le sommeil, les fibres de l'estomac ne sont donc pas si sensibles aux impressions de la faim. Cinquièmement, les fibres du cerveau des enfants sont fort molles. Elles s'affaisseront donc, ou elles se gonfleront plutôt que celles des vieillards, dans lesquelles elles se dessèchent. De là vient que les enfants dorment plus que les adultes et les vieillards. Peut-être que le repos du fœtus dans le sein de la mère vient de la même source. Il y a cependant une autre cause dans le fœtus, c'est que les objets ne font impression ni sur ses yeux, ni sur ses oreilles. Or, dès que ses sens sont tranquilles ou sans action, on est disposé au sommeil. Enfin, le sang est partagé entre le placenta et le fœtus. Il y a donc moins de mouvement et par conséquent plus de repos. Ajoutez encore que les fibres molles des enfants n'ont pas assez de force pour diviser les matières épaisses qui sont dans les vaisseaux. Il doit donc se former plus aisément une plénitude dans leur cerveau et la compression causée par cette plénitude produira le sommeil. Sixièmement, si l'on dort trop longtemps, la transpiration s'arrête. On a la tête pesante ou on est sans force. La raison en est peut-être de ce que la partie aqueuse qui se dissipe presque seule durant le sommeil prive le sang de véhicule et que les parties grossières doivent former des engorgements partout. La transpiration doit donc cesser en même temps. Pour ce qui regarde la tête, les vaisseaux se gonflent toujours quand on dort. Et enfin, par un long sommeil, le gonflement devient si grand que les vaisseaux capillaires sont comprimés avec les veines par les grosses artères. Le sang ne pourra donc pas revenir avec la même facilité, et ce sera une nécessité qu'on ait la tête pesante. Mais cette compression qui empêche le sang de revenir arrête encore le suc nerveux à l'origine des nerfs. Ainsi, ce suc ne pourra pas couler dans les extrémités et on se trouvera sans force, faute du suc nécessaire pour mouvoir les muscles. Enfin, les battements des vaisseaux causeront par leurs secousses des impressions désagréables qui réveilleront en sursaut et qui nous empêcheront de dormir tranquillement. Septièmement, pour la graisse, il est évident qu'elle doit se ramasser en plus grande quantité dans ceux qui dorment trop longtemps. Car il ne se fait pas de dissipation de la substance grossière par la transpiration, c'est une nécessité que les vésicules huileuses se remplissent davantage. Huitièmement, quand on s'éveille, on bâille, on étend les bras, on est plus agile, on a plus de vivacité d'esprit. Comme le suc nerveux n'a pas coulé dans les muscles durant le sommeil, toutes leurs fibres sont languissantes. Il faut donc les contracter tous pour ouvrir le passage au suc nerveux qui s'est filtré dans le cerveau ou pour l'appeler dans ses parties. De plus, le mouvement du sang est tel languissant dans les muscles. Il faut hâter son cours. Or, cela se fait par la contraction où ils entrent quand on étend les membres. Le bâillement vient de la même cause, comme on le peut voir à l'article de ce mot « bâillement ». Ce suc nerveux qui entre dans les muscles et qui s'est ramassé en grande quantité fait qu'on est plus agile. Quant à la vivacité d'esprit, l'être suprême a voulu qu'elle dépendît du mouvement des liqueurs dans le cerveau. Or, ce mouvement est beaucoup plus aisé quand il s'est ramassé une grande quantité de sucre nerveux et que les fibres ne sont plus engourdies ou qu'elles ont repris leur tension, et c'est ce qui arrive durant le sommeil. La conjecture tirée de la compression du cerveau que nous venons de préférer aux autres pour expliquer les phénomènes que présente le sommeil semble être confirmée par l'action des causes qui nous assoupissent. Premièrement, les aliments pris avec excès et surtout les viandes solides et tenaces prises en grande quantité nous font dormir. Cela vient de ce que les aliments peu aisés à se diviser forment une liqueur épaisse qui ne peut pas aisément passer par les extrémités artérielles du cerveau. Par là, elles occasionnent un engorgement qui cause une compression. D'ailleurs, ces matières, comme elles sont tenaces, arrêtent la transpiration, ainsi que Sanctorius l'a remarqué. De là, il suit qu'il y aura dans le cerveau une plénitude et par conséquent une compression. En général, les vaisseaux sont plus remplis quand on a mangé, et la plénitude est plus grande quand les artères se vident plus difficilement. Or, cette difficulté est plus grande quand les aliments sont tenaces. Enfin, quand le ventricule est plein de ces aliments, il se vide avec peine, il se boursoufle, et ce boursouflement, comprimant les vaisseaux en bas ventre, le sang est éliminé vers la tête. Deuxièmement, les liqueurs fermentées endorment parce qu'elles contiennent des principes qui se raréfient beaucoup. Ces principes, en occupant beaucoup d'espace, dilatent les artères du cerveau et les compriment par conséquent. Troisièmement, les remèdes qui apaisent la douleur nous procurent un doux sommeil. Mais nous ne parlons ici que d'une douleur continuelle et longue. Il faut regarder cette douleur comme un long travail qui agite le corps et le cerveau et qui produit une insomnie. Dès que la cause de cette insomnie vient à cesser, on est saisi du sommeil comme après une insomnie ordinaire. Et après un travail fatigant, l'âme, par les lois qui l'unissent avec le corps, ne saurait sentir la douleur, qu'elle ne cause de l'agitation dans le cerveau. Mais quand la douleur cesse, les fibres du cerveau étant relâchées, n'empêchent plus par leur agitation que la compression ne produise le sommeil. D'ailleurs, quand on souffre, les artères du cerveau sont plus pleines. Et quand la douleur cesse, cette plénitude produit la compression dont nous venons de parler. On voit par là que des remèdes contraires pourront faire dormir. Quand le lait aigri a causé des convulsions et des coliques aux enfants, les absorbants se chargent de l'acide et produisent le sommeil. Et dans les grandes maladies dont la chaleur est le principe, les remèdes rafraîchissants seront des somnifères. Quatrièmement, la grande chaleur jette dans l'assoupissement. La raréfaction qu'elle cause dans les liqueurs, l'évaporation des parties les plus fluides du sang, le relâchement qu'elle produit dans les fibres doivent nécessairement produire le sommeil. Le froid peut occasionner la même chose, parce qu'en arrêtant la transpiration, il cause une plénitude qui comprime le cerveau. Cinquièmement, la tranquillité de l'esprit procure le sommeil, car le cerveau n'est pas alors agité par l'âme. Ainsi abandonné, pour ainsi dire, à lui-même, il peut s'affaisser, puisqu'il ne résiste pas à la compression. C'est surtout en calmant l'esprit que le murmure des ruisseaux nous assoupit. Ce bruit sourd et uniforme attire notre attention sans nous agiter, et par là éloigne de notre esprit les pensées qui pourraient nous troubler. On doit dire la même chose des sons des instruments qui produisent ces effets. Sixièmement, tout ce qui peut empêcher le sang de se rendre au cerveau doit nécessairement assoupir, car alors les fibres deviennent flasques et s'affaissent. De là vient que les grandes évacuations sont suivies du sommeil. Septièmement, tous les accidents qui peuvent causer une compression dans le cerveau doivent endormir. Aussi, les observations nous apprennent-elles que les abcès, les liqueurs extravasées, les contusions, les enfoncements du crâne produisent un assoupissement. Huitièmement, pour ce qui est des assoupissements qui tirent leur origine des mouvements sympathiques, il peut venir de la plénitude ou des compressions que causent ces mouvements dans le cerveau. Neuvièmement, enfin, il faut convenir qu'il y a des espèces de sommeil dont on ne peut rendre raison. De même que tout ce qui comprime le cerveau et s'oppose au passage du suc nerveux dans les nerfs amène le sommeil, tout ce qui produira un effet contraire nous tiendra dans une situation opposée à l'assoupissement. Les passions, la douleur, les matières âcres et volatiles nous mettent toujours dans un état où les fibres se trouvent agitées. Pour les matières âcres et volatiles, on voit aisément qu'elles ne peuvent produire cette agitation. Mais quant aux maladies de l'esprit, l'être qui tient l'âme et le corps dans une dépendance mutuelle peut seul nous apprendre la manière dont le cerveau se trouble quand l'âme est agitée. Quoi qu'il en soit, l'effet des passions est toujours un mouvement dans le cerveau. Ce mouvement fait couler le suc nerveux et empêche que le cerveau ne soit comprimé par les vaisseaux ou ne s'affaisse de lui-même.